Seigneur, je veux te prier
pour
toutes les personnes qui ont donné ici ce matin, qui ont voulu te remercier, qui ont voulu t'honorer en ce jour de Pâques et se rappeler de tout ce que tu as fait pour eux dans leur vie. Que ta bénédiction soit sur chaque personne. Ma prière, c'est qu'ils puissent mieux te connaître, mieux comprendre qui tu es, comprendre ce que tu veux et de quelle façon tu veux les bénir également. Cet argent qui a été donné, c'est une semence pour ton royaume, une semence pour l'avancement de cette église, premièrement spirituellement, parce que nous voulons voir avant toute chose des âmes sauvées, et aussi pour eux la finition des travaux dans lesquels nous sommes actuellement. Je prie, Seigneur, que tu fasses prospérer ton peuple d'une manière indiscutable, afin que chacun puisse dire: c'est le Seigneur qui a fait ces choses. C'est le Seigneur qui nous a donné sa grâce. Je te demande de leur donner des idées. Des idées pour eux. Le travail, des idées pour le business. Qu'ils n'aient pas besoin de copier ce que font les autres, mais qu'ils reçoivent de toi ce que tu as prévu pour eux. Parce que ce que toi tu as prévu pour eux, c'est ce qui leur convient parfaitement. Et c'est sur le terrain, et c'est sur ce terrain qu'ils pourront multiplier, comme tu as dit à Adam et
Ève,
multiplier. Et je parle la multiplication, la multiplication dans tous les domaines, parce que ce qui vient en premier, c'est le spirituel, ce qui vient en deuxième, c'est le naturel. Et je prie qu'ils multiplient spirituellement afin qu'ils puissent savoir quoi faire, car tu les as appelés à être des intendants, les biens que tu confies. Et un intendant, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, et c'est quelqu'un qui, comme Joseph, prospère dans tout ce qu'il fait. Même quand il était en prison, Joseph, on lui avait tout confié et tout prospérait entre ses mains. Et pourtant, à la base, ce n'était pas quelqu'un vraiment d'éduqué, mais c'était un homme qui aimait Dieu. Frères et sœurs, aimez Dieu. Cherchez ce qu'il a pour votre vie. Et une fois que vous l'avez compris et saisi, donnez-lui toujours la première place, afin qu'il vous donne des idées, qu'il vous donne cette influence qui permet de réussir. Car oui, Dieu a prévu que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez, afin que l'on voit la différence entre ceux qui connaissent Dieu, qui marchent avec lui, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Car il y a une bénédiction spéciale qui doit être manifestée d'une façon visible dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu et qui marchent avec Dieu de tout leur cœur. À Jésus soit la gloire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Je vais partager avec vous ce message de Pâques Les enfants ont commencé. Franchement, moi j'aime ça. J'aime bien ce que Dieu fait. Il commence une chose, ensuite il y a une deuxième chose qui s'ajoute, puis une troisième, et à la fin tout est complet. Et tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore reçu Jésus, vraiment écouter attentivement. Parce qu'on ne peut pas être négligent.
Amen.
On ne peut pas être négligent avec certaines choses. Si tu es en train de cuisiner et que tu négliges ce que tu es en train de faire, quand tu fais de la cuisine, si tu négliges,
la seule
chose qui arrive, qui peut arriver, c'est que ce que tu es en train de préparer va brûler. C'est dommage, mais c'est pas grave. Amen. Ne négligez pas un si grand salut. Ne négligez pas le don de Dieu. Ne le méprisez pas, mais que chaque personne soit interpellée. Vous allez dire, oui, d'accord, mais moi je suis déjà sauvée. Tu es peut-être sauvée, mais fais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Parles-tu de Jésus comme tu devrais le faire? Parce qu'un jour nous allons tous mourir. Et certains, ça sera pour être accueillis dans la gloire et de voir l'impact qu'ils ont eu dans la vie des autres. Pour d'autres, ça sera de venir tout seul avec rien du tout. Et ça
ne
sera plus le moment de dire « Ah ben, je n'ai pas eu le temps » ou
«
J'avais des problèmes ». Vous savez, tout le monde a des problèmes, amen. Mais tout le monde aussi a un Dieu. Et j'aimerais vraiment que parmi les personnes qui sont ici, il n'y en ait pas une seule qui fasse partie de la troisième catégorie à qui Dieu pourrait dire
«
Je t'ai envoyé des messagers, mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas voulu écouter. » Et Billy Graham définit cela comme les regrets éternels.
Vous
savez, les gens qui sont en enfer, c'est comme si on verse sur eux un bidon d'essence qu'on allume.
On allume.
Vous savez, il y a des gens parfois sur la terre qui meurent brûlés. Et parce qu'ils ont soit reçu de l'essence, soit il y a eu un accident, je ne sais quoi. Et ils subissent des souffrances extrêmes. Mais au bout d'un moment, ils finissent par mourir. Sauf que pour ceux qui seront en enfer, ils ne mourront jamais. Et Billy Graham dit la chose suivante, que dans l'enfer, il y aura cette souffrance éternelle pour ceux qui n'ont pas reçu Christ et aussi les regrets éternels. Parce que pendant toute l'éternité, ils vont se dire, j'avais entendu, je voyais la vérité, mais je me disais plus tard, ou je me disais, oh, c'est pas pour moi. Dieu a envoyé et Dieu envoie encore et encore des messagers parmi les hommes. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et si toi qui es ici, tu es déjà sauvé, tu dois contribuer. Parce que dire à quelqu'un « Jésus t'aime », ça ne demande même pas d'avoir fait l'IBH. N'importe qui peut dire « Jésus t'aime ». N'importe qui peut dire « Jésus m'a sauvé » et expliquer comment Jésus l'a sauvé. Et rien que le fait de dire cela, parce que tu dis la vérité, tu dis ce que tu as vécu, le Saint-Esprit viendra et confirmera dans le cœur de la personne qui t'entend qu'il a ou qu'elle a tellement besoin de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler ensemble du sacrifice de Christ, le sacrifice de Jésus pour nos péchés. On va commencer en lisant dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, parce que la mort de Jésus n'a pas été lié à un complot. La mort de Jésus n'a pas été le fruit du hasard ni de la méchanceté des hommes. Mais la mort de Jésus, d'abord sa venue sur la terre, puis sa mort, était le plan du Père Lisons ensemble dans Jean chapitre 10, verset 15,
jusqu'au verset 18.
Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Nkuko data anzi nanje hamumenya kandi ndigura intama zanje kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo nazo nyene birakwiye kuzije imbere zizokumva ijwi ryanje hazoba umukuku umwe n'umwungeri umwe igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kugabira nta numwe abunyaka kuko mburekura nkubwanje mfise ububasha bwo kuburekura mfise n'ububasha bwo gusubira kugabira.
Jésus était ici en train d'annoncer à l'avance.
Yesu ariko avuga imbere y'igihe.
À l'avance ce qu'il allait faire.
Ariko avuga imbere y'ibyo yari agiye gukora.
Il n'était pas en train seulement d'annoncer sa mort.
Ntiyaruka avuga gusubira.
Le fait qu'il allait donner sa vie. Parce que vous savez comme moi que dans ce monde, il y a des tas de personnes qui meurent. Qui meurent un jour ou l'autre. Et la plupart du temps, les gens meurent et leur mort ne sert à rien. Il arrive rarement que quelqu'un meure parce qu'il est en train d'essayer de sauver quelqu'un d'autre. Donc Jésus annonce sa mort et il annonce le plan de Dieu derrière tout cela. Il dit, il y aura un seul troupeau. Il est en train de montrer que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. Vous savez, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. On ne choisit pas le pays dans lequel on est. On ne choisit pas notre race. La couleur de notre peau. Et si Dieu n'avait pas été juste, vous tous qui êtes ici ainsi que moi-même, parce que moi je ne suis pas juive d'origine, si Dieu n'avait pas été bon, eh bien on serait écarté. Parce qu'on est né dans le mauvais pays, dans la mauvaise famille et de la mauvaise couleur. Entre guillemets, bien sûr. Mais Dieu est bon. Il a pensé à vous. Il a pensé à moi. Il a pensé à nous avant même la fondation du monde. Afin que nous puissions faire partie du peuple de Dieu. Par notre foi dans le sacrifice de Christ. Le plan du Père, c'est le salut pour tous les hommes, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur passé. Je vous assure que le salut, personne ne peut le mériter. Personne ne mérite quoi que ce soit. Et ce n'est pas la gravité des choses que tu as faites dans ta vie qui feront que tu peux être retranché du salut. Ou le peu de choses que tu as faites qui peuvent dire Dieu va t'accueillir. Tu peux être une bonne personne dans le naturel. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es condamné. Tu es condamné. Nous connaissons des personnes sur cette terre. Nous connaissons des personnes, différentes sortes de personnes, qui un jour, selon le monde, je ne vais pas vous enseigner sur la guérison spécialement aujourd'hui, mais des personnes selon le monde qui tombent malades et qui tombent malades de maladies graves, comme le cancer par exemple. Et vous savez comme moi que les personnes qui souffrent de cancer, elles sont condamnées tôt ou tard. Parfois, il y a des rémissions. Mais la majorité des cas, les gens finissent par en mourir. Est-ce qu'ils ont mérité cela? Non. Parfois, ce sont même des enfants qui sont touchés. Ils n'ont pas mérité d'être malades de la sorte. Et pourtant, ils sont condamnés. Ce ne sont pas les mauvaises personnes qui tombent malades. Amen. Ceux qui tombent malades, ce sont les mauvais comme les bons. Selon les critères de ce monde, bien sûr. Donc, on peut être une bonne personne dans le naturel, ne pas souvent faire de mal aux autres, pas mal parler des autres, ne pas être voleur, menteur, meurtrier ou alcoolique. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es condamné. Si tu n'as pas Jésus, tu es condamné, qui que tu sois. Si tes péchés n'ont pas été pardonnés, tu es condamné. Donc le plan du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'était un plan grandiose. C'est un plan magnifique. Parce que nous sommes tous appelés au salut. Dieu a pensé à nous. Il nous a créés. Il nous a mis sur cette terre. Non pas pour que nous allions en enfer un jour, mais pour que nous trouvions la voie du salut. Une voie du salut qui est gratuite pour nous, mais qui ne l'a pas été pour Jésus. Lisons ensemble dans Philippiens chapitre 2. Parce que c'est important de comprendre que ce que cela a coûté à Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, ubonaho yarasanganywe ishusho y'Imana, niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika ubusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba.
Quand on a le désir d'aider quelqu'un,
iyo ufise umutima wo gufasha umuntu,
on va le faire du mieux que l'on peut,
urabikora uko ushoboye,
mais en calculant de la sorte que ça ne coûte pas trop cher. Amen. Et c'est normal. On aime les autres, on veut les aider du mieux que l'on peut, mais généralement on va examiner les façons d'aider la personne avec intelligence, sans que ça nous coûte trop cher, sans que ça soit trop difficile pour nous. Vous savez, Dieu n'a pas pu faire ce genre de calcul, parce que si Dieu avait pu nous sauver sans donner Jésus, il l'aurait fait. Jésus était dans le cœur du Père de toute éternité. Jésus est ce que le Père a de plus précieux, de plus merveilleux, ce que le Père a et qui a le plus de valeur, la plus grande valeur. Imaginez et essayez de comprendre le prix qui a dû être payé pour que nous puissions être sauvés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que potentiellement, Jésus a sauvé tous les hommes de toutes les générations, de tous les temps. Et pour pouvoir en bénéficier, Il suffit de s'approcher de Dieu, de reconnaître nos péchés. Jésus a payé fort cher notre salut. D'abord, il a quitté le ciel. Il est devenu un homme ordinaire. Il n'était même pas un prince ni un roi sur cette terre. Il était le fils du charpentier. Ou si vous préférez, le fils du menuisier. Vous pouvez voir qu'un menuisier dans la société fait partie d'une classe moyenne. Jésus est venu comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Il a dû souffrir l'incompréhension, le mépris, les moqueries, les rejets des hommes quand il était sur cette terre. Mais pourtant, il a été jusqu'au bout.
Parce que
Jésus voulait absolument obéir au Père, plaire au Père dans toutes ses pensées, dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. J'aimerais qu'on aille maintenant dans Ésaïe. Ésaïe 53, ce merveilleux passage qui a été pris par les enfants tout à l'heure. Ésaïe, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que le salut. D'abord, pour ceux qui ne sont pas sauvés, afin qu'aujourd'hui, ce soit leur jour, le jour de leur salut. Amen. Et vous qui êtes déjà sauvés, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment d'abord de quoi ils ont été sauvés et d'autre part, ils ne comprennent pas vraiment les bénéfices du salut, les bénéfices du salut pour leur vie personnelle. Lisons ensemble le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si Jésus a porté nos souffrances, c'est pour que nous n'ayons pas à les porter. Amen. Je prends ton sac, mais je ne veux pas prendre ce qu'il y a dedans. Imaginez que ça. Et encore, cette sacoche, elle n'est pas très lourde. Viens ici devant. Cette sacoche n'est pas très lourde. Imaginez que cette sacoche pèse, je
ne
sais pas, 3-4 kilos. Ce n'est pas lourd. Mais imaginez la même sacoche qui pèse 80 kilos, 100 kilos. Comment est-ce qu'on va marcher? On va marcher comme ça. Et on est obligé de la traîner. Parce que ça, ce sont nos souffrances. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, on est d'accord. Imagine que toute ta vie, tu marches comme ça. Ça, c'est la vie des païens. N'est-ce pas? C'est la vie des païens. Ils marchent comme ça parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais dans son amour, il a porté. Porte. Il a porté. Pourquoi? Pour que tu n'aies plus besoin de le porter. Et pourtant, il y a tellement de chrétiens
qui
s'accrochent à leur souffrance. Ils les reprennent même des mains de Jésus. Vous savez, quand on commence à approfondir notre relation avec Christ, quand on apprend à vivre dans sa présence, et je sais que ça ne vient pas du jour au lendemain, on apprend à vivre dans la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, être couvert de sa gloire. Les choses viennent, elles viendront contre nous. Parce que les choses viennent et viendront toujours. N'est-ce pas? Mais pensez au moment dans votre vie où vous étiez vraiment rempli. Et toutes ces choses qui vous font souffrir ou qui vous ont fait souffrir, vous les regardez en disant, Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Et si ça te fait encore quelque chose, c'est que tu ne vis pas suffisamment dans la présence de Dieu. Et quand ça ne nous fait rien, on commence à comprendre. On commence à voir comment répondre à ces choses qui viennent contre nous. Avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu, avec la position de fils et de fille que nous avons. Beaucoup de personnes ne comprennent pas suffisamment les bénéfices du salut, ce qu'ils sont en Christ. Et avec un gros carton de soutien, prends ça. Souvent, les gens prennent parce qu'ils sont pris au dépourvu. Ils ne s'y attendent pas. Mais attendez-y vous toujours. Soyez toujours prêts. Allez, tu vas faire un petit coup le rôle du diable. Envoie-moi un carton de souffrance. Tu te trompes de personne, ma fille. Jésus a porté mes souffrances.
Moi,
je vis dans la joie. Je vis dans la joie. Et si vous manquez de joie, allez-y, dans vos voitures, dans la rue, dans la douche, dans le salon. Bon, pas trop au travail quand même. C'est comme ça que l'on répond aux choses qui viennent. Jésus a porté tes souffrances. Pourquoi est-ce que tu dois encore les porter? Il les a portées. Et il s'est chargé de nos douleurs. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Tu peux mettre ici, sinon on va marcher dessus. Mais voilà. Ça arrive à tout le monde d'avoir des douleurs. Des douleurs morales. Vous savez, il y a des choses qui font mal.
Hein?
Des choses qu'on nous dit. Ou parfois, ce sont des douleurs dans nos corps. Et qu'est-ce que tout le monde dit?
Oh,
j'ai mal. Et au moment où tu dis, j'ai mal, tu sais quoi?
Tu
as encore plus mal. C'est un élément déclenchant. Le diable essaye de te faire mal pour voir comment tu vas réagir. Et quand tu dis, j'ai mal, quand tu vas voir Alice, si tu lui dis, Alice, tu
ne
sais pas ce qui m'arrive. Je souffre. J'ai mal. Tu parles comme ça. Tu auras encore plus mal. Tu es en train de verser de l'essence sur un petit feu qui est grand comme ça. Et quand, vous savez, on verse un peu d'essence sur le feu, ça devient un feu énorme. Nous avons grandi de cette manière-là. Nous l'avons vu chez nos parents, chez nos grands-parents. Oh là 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 là, que la vie est dure. Qu'est-ce que j'ai mal? Oh, j'ai mal à la tête. À partir du moment où tu réagis comme ça, tu acceptes, tu appelles, tu reçois la douleur dans ta vie. Les gens aiment se plaindre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est humain. Mais je vous assure que ce n'est pas bon. Quand les douleurs commencent à venir, que ce soit des choses qu'on te dit, qu'on te fait, bon, bien sûr, parfois on va réagir un peu. Mais au bout de quelques minutes, il faut se reprendre et dire non. Jésus, si je te fais mal dans ton corps, ça arrive à tout le monde. Tu fais non. Non. Ce n'est pas pour moi. Jésus s'est chargé de mes douleurs. Je suis libre de toute douleur. Vous savez, quand on commence à comprendre la puissance, la grandeur de la gloire du sacrifice de Jésus, et quand on commence à vivre dans le bénéfice de ce qu'il nous a donné, nous serons heureux. Nous serons épanouis. Une vie sans souffrance. Une vie sans douleur. Les choses viennent. Et elles partent comme elles sont venues. Et elles nous trouvent. En ayant les regards sur Jésus, celui qui a tout accompli parfaitement pour nous, elle nous trouve avec des cœurs remplis d'amour et de reconnaissance. Plutôt que d'être des gens qui disent « Oh, la vie est dure, oh, ça fait mal. » Continue comme ça et ça sera de plus en plus dur. Et ça fera de plus en plus mal. Nous devons vivre à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous.
Ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imishagu yiwe niwe dukiza.
Dans le texte original, il est dit que il a été transpercé.
Mu vyanditswe kera.
Ici c'est écrit blessé. Ici c'est écrit blessé.
Aha banditse ngo
yarakomeretse. Mais en réalité, c'est transpercé.
Transpercé
à cause de nos péchés. Jésus a été transpercé à cause de nos péchés. Qu'est-ce que c'est que le péché? Tout le monde le sait. C'est tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu, point final. Tout ce que nous faisons en accord avec la parole de Dieu est une bonne chose, amen. Mais à chaque fois que nous disons ou que nous faisons quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous commettons un péché. Ça s'arrête là. Et je pense que ça peut éclairer vos yeux. Le péché, c'est bien plus que de mentir, tuer, voler, ou s'enivrer, ou je ne sais quoi d'autre. Le péché, c'est bien plus que cela. À chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu commets un péché. Alors, il y a des personnes qui sont en train de se dire, ça vraiment c'est compliqué, hein. Ça c'est dur vraiment. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as donné une parole comme ça? En fait, si Dieu nous a donné sa parole, ce n'est pas pour que nous soyons coincés dans un petit coin. Ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Mais dans sa parole, Dieu nous montre. Dieu nous permet de voir. Dieu nous permet de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si la parole le déclare, c'est pour notre compréhension. Amen. C'est comme une maman qui dit à son enfant, tu vois le feu, c'est dangereux. Amen. Et si la maman ne le dit pas à son enfant, le feu n'est pas dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Non! Si je dis que le feu est dangereux, ou si je dis que le feu n'est pas dangereux, ça ne retirera rien au fait que le feu est dangereux. Amen. Combien de personnes se brûlent? On s'est tous brûlés un jour ou l'autre, plus ou moins. Et peut-être qu'on nous l'avait dit avant, mais quand nous l'avons expérimenté, nous avons compris que c'était dangereux. Amen. Et si Dieu nous montre dans sa parole et nous dit ça c'est mauvais ou ça c'est dangereux, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il nous, il veut nous protéger. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la destruction. Jésus a été transpercé pour nos péchés. Il a été brisé. Plus exactement, écrasé. écrasé pour nos iniquités. Alors vous allez me dire, mais péché, iniquité, c'est la même chose.
Ce
n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Péché, c'est commettre une action répréhensible selon la parole de Dieu. L'iniquité, c'est quelque chose qui est bien plus subtil. Qui est plus subtil. Vous savez, on peut commettre une iniquité sans commettre un péché. Je vous donne un exemple. Admettons que ma sœur qui est là décide d'investir une somme d'argent dans un business quelconque parce qu'elle veut avancer financièrement. Imaginez que moi, de mon côté, je sache pertinemment que le business dans lequel ma sœur va investir est un truc pourri, non seulement qu'elle ne va rien gagner, mais du fait que les personnes qui travaillent dans cet endroit sont extrêmement malhonnêtes, elle risque de se retrouver en prison. Moi, je le sais. Elle est mon amie. Où je la connais assez bien. Elle ne sait rien. Elle ne sait pas cela. Et elle met son argent dans cette histoire. Et le fait que je ne dise rien, parce que je veux qu'elle prenne une bonne claque, est-ce que je commets un péché? Non. Je n'ai rien dit. Et je n'ai rien fait. Donc, je n'ai pas péché.
Amen.
Amen. Mais par contre, le fait que je ne suis pas allée la voir pour lui dire, ma sœur, fais attention, j'ai des informations que tu n'as pas. Et ces choses vont causer ta ruine et ta perte. Si je ne fais pas cela, si je ne vais pas, je commets une iniquité. Amen. Ça, c'est un exemple. Une iniquité n'est pas un péché, mais une iniquité fait du mal, détruit, abîme la vie de quelqu'un d'autre. Parce que soit je n'ai pas agi là où j'aurais dû le faire, soit je n'ai pas parlé là où j'aurais dû le faire, et j'ai laissé quelqu'un s'égarer et s'écraser sans lever le petit doigt. Et la Bible dit que Jésus a été écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons une paix intérieure parce que Jésus habite en nous. Ne permettez plus à rien, ni à qui que ce soit d'ailleurs, de venir troubler votre paix. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéri, c'est la fin du verset 5. Maintenant, j'aimerais que vous gardiez cette page parce qu'on va y revenir. On va aller dans Matthieu chapitre 27, verset 26. Parce que quand on parle de meurtrissure, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et puis, comme on ne le voit pas avec nos yeux, parfois ça ne parle pas vraiment à nos cœurs. Surtout quand on est parfois assailli par des symptômes. Et c'est difficile de vraiment comprendre et de s'accrocher à cette parole. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le verset 26. Une fois que Jésus a été livré pour être crucifié, il y a une première étape, une première chose qui va se produire. Lisons le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.
maze abarekurira baraba ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe.
Quand Jésus a été battu,
Yesu
ce n'était pas avec un simple fouet.
Ce
n'était pas non plus avec un bâton. Mais c'était des longues cordes.
Plusieurs.
Parce que c'est marqué de verges au pluriel.
Plusieurs
cordes au bout desquelles il y avait soit des morceaux de métal ou soit des morceaux d'os pointus. Je sais que certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de marcher sur un clou, ça fait mal. Ou de se blesser avec quelque chose de dur. Et ça fait vraiment mal. Donc Jésus a été battu de verges. Et à chaque fois qu'il recevait un coup, la peau, la chair de son dos a été arrachée. Et je ne suis pas en train de vouloir parler à vos émotions pour que vous disiez « Oh pauvre !» Ce n'est pas le but. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que à chaque fois que Jésus prenait un coup, ce sont tes maladies qui ont été mises sur lui. Il a reçu 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. 39 coups. Et vous savez, les scientifiques disent qu'il y a 39 grandes classes de maladies. Pourquoi devrions-nous être malades? Parce que le prix de la maladie a été payé. C'est pareil que l'histoire des douleurs, tout à l'heure, des souffrances. Pourquoi porter des souffrances? Pourquoi porter des maladies? Pourquoi les accepter? Pourquoi accepter des maladies dans vos corps que Jésus a déjà portées? Il y a certaines personnes qui disent « Oh, je le mérite. Je suis sortie dehors sous la pluie, j'ai pris froid, c'est tant pis pour moi. » Il y en a d'autres qui disent « Je me suis trop fatiguée. » Alors finalement, j'ai eu la malaria, c'est normal. Ce n'est pas normal. Je dis que ce n'est pas normal. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut provoquer la maladie. Amen. On n'a rien à provoquer. Mais on n'a pas à être malade. Ne trouvez jamais des raisons, des prétextes ou des excuses à vos maladies ou à vos symptômes. J'ai mangé un truc avarié, c'est normal que je sois malade. Rappelez-vous que Jésus a dit que si quelqu'un boit un breuvage mortel, ça ne lui fera aucun mal. Je dis aucun mal. Que ça soit le fait de boire ou de manger quelque chose de mauvais, ça ne te fera aucun mal. Il y a des années de cela, il y avait un serviteur de Dieu qui était vraiment quelqu'un que Dieu utilisait puissamment dans les années du début du réveil, au début des années 1900. Et quand il prêchait, il y avait des multitudes de gens qui étaient sauvés, il y avait des guérisons, baptême du Saint-Esprit. Et vous savez que le diable n'aime pas cela.
Amen.
Le diable n'aime pas cela. Et comme le diable n'aime pas cela, il va utiliser les mêmes méthodes que du temps de Jésus. Comment est-ce que du temps de Jésus, le diable essayait de faire du mal à Jésus ou de l'arrêter en utilisant d'autres hommes? Amen. Et il était donc en train de prêcher et il avait dans le bas du pupitre comme ça ici un verre d'eau. Et il y a quelqu'un qui a mis du poison dans l'eau. Il ne le savait pas, bien sûr. Amen. Il prend l'eau parce que les réunions duraient fort longtemps. Il boit et il a été saisi, mais de douleurs incroyables. Plié en deux comme ça. Mais ça a duré 10 secondes. La 11e seconde, c'était fini. Et à la fin de la réunion, on a pris le verre, ce qui restait dedans, On l'a analysé et il y avait tellement de poison dedans que ça aurait pu tuer 12 vaches. Vivez à la hauteur de ce que Jésus a fait pour vous. Il y a des personnes qui pensent que la guérison divine, faut être très spirituel. Il y en a d'autres qui pensent que si jamais il y a Bénigne qui vient, alors je serai guérie. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries dans le ministère de Bénigne, mais il y en a aussi qui ne le sont pas et qui meurent. Jésus est plus et il est à toi et il l'a fait pour toi. Amen. Et c'est pour ça que nous devons prendre cette parole pour notre vie. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Comprends bien que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Amen. Dieu ne veut pas que je sois malade. Dis-le, Dieu ne veut pas que je sois malade. Moi, je ne veux pas être malade. Et quand deux s'accordent pour demander une chose quelconque, il l'a. Je suis guérie. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux le faire en kirundi maintenant. On est toujours dans Matthieu 26, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Matthieu 27,
29.
On n'a pas vraiment une idée précise de ce que représentent ces épines.
Parce que
ici, bien sûr, il y a des épines, mais elles sont rarement plus grandes que ça. Au Moyen-Orient, il y a des épines qui sont vraiment grandes et en plus qui ont une sorte de poison à l'intérieur. Et c'est de ce genre d'épines que Jésus a été couronné. Ça ne s'est jamais fait par hasard. Ça n'était pas à cause de la méchanceté des hommes. Ces épines représentent tout ce qui peut oppresser les pensées des hommes. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui souffrent de dépression? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui sont opprimés? Parce qu'ils ne savent pas que Jésus a pris tout cela sur lui-même lorsqu'il a été couronné d'épines. Et à chaque fois qu'une pensée dépressive vient, parce qu'elle vient dans la vie de tout le monde, tu peux dire, moi je n'ai pas besoin de souffrir cela, je n'ai pas besoin de recevoir ces choses parce que Jésus les a pris pour moi et à ma place. Il a porté ses épines pour la guérison de nos pensées. Revenons dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et vous le savez bien vous-même. Mais Jésus a donné sa vie pour qu'il y ait un peuple, pour qu'il y ait un troupeau dont vous faites partie, qu'il y ait un berger. Et Jésus est notre bon berger. La deuxième partie du verset 6. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous.
Umuntu wese yari mu nzira yiwe uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese.
Revenons dans Matthieu chapitre 27.
Et
cette fois, nous allons lire les versets 46 et 51. Matthieu 27, verset
46.
Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Nk'uko isaha y'icenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» risobanura ngo, « Mana yanje, niki kikumpebesheje ?»
Pourquoi est-ce que Jésus a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'une fois avoir été frappé, une fois avoir été, après avoir été humilié, après avoir reçu cette couronne d'épines, il a été crucifié. Et là, sur la croix, Jésus est devenu péché. Il n'est pas devenu pécheur parce qu'il n'a jamais péché de sa vie. Mais il a été fait péché. Notre péché, notre nature, notre nature de péché a été transférée dans l'esprit de Jésus. Et à ce moment précis, Dieu l'a abandonné. Parce que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas regarder le péché. Parce que Dieu est trois fois saint. Amen. Il est trois fois saint. Comment pourrions-nous l'expliquer? Ce n'est pas vraiment explicable. Mais pour chaque personne ici présente, il y a des choses qui vous dégoûtent ou qui vous révulsent, n'est-ce pas? Des choses naturelles qui vous dégoûtent ou qui vous révulsent. Personne n'aurait l'idée d'aller dans un petit coin, ramasser un rat mort à moitié décomposé, surtout à moitié décomposé, le prendre par la queue et de le manger comme ça, parce que c'est dégoûtant. Amen. C'est révulsant. Rien que le fait de le voir, tu fais comme ça. Et pour les jeunes filles qui sont là, je te dis, Seigneur, retire même cette vision horrible de mes yeux, sinon je vais faire des cauchemars cette nuit. Amen. Dieu s'est détourné de Jésus. Il a été abandonné. Mais en même temps, lisons dans Jean chapitre 19, versets 30 et 31, il s'est écrié quelque chose. Jean chapitre 19, versets 30 et 31. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est verset 30 seulement. Il a tout accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à accomplir. Parce que s'il y avait encore des choses à accomplir, Jésus n'aurait pas dit tout est accompli. Il a tout accompli. Et ensuite, il est ressuscité. Lisons ensemble Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Parce que si Jésus était seulement mort, nous serions encore sans espoir. Mais Jésus est ressuscité. Lisons verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez rien, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Venez et voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Ariko umumarayika abwira babagore ati mweho ntimutinye kuko nziko murondera Yesu umwe yabambwa ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze ngo murabe aho umwami yarajyamye ni mu kwa kwanye mubwire abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye kandi azobitangira imbere kuja I Galilaya iyo niho muzomubonera
Lisons aussi et on va finir avec cela 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était la figure du baptême, on parle du déluge là, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. 1 Pierre chapitre 3, verset 21.
Petero wa mbere gatatu mirongo ibiri na rimwe ayo niyo abakiza namwe ubu mu buryo bw'ikigereranyo cyo kubatizwa si ugukura himviro zo ku mubiri ariko ni isezerano ry'umutima utagirizwa ikibi usezeranye ku mana abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo
amen ce qui nous sauve ce qui nous a sauvés c'est le fait que Jésus soit ressuscité des morts
et
j'aimerais qu'on prenne quelques minutes de recueillement maintenant
je
voudrais que les enfants cessent un peu de circuler pour l'instant merci et qu'on se recueille pensez quel a été le prix de votre salut. Même si vous n'êtes pas sauvé, peut-être qu'aujourd'hui tu es ici, tu es dans tes péchés, tu n'es pas sauvé, mais sache une chose, c'est que le prix a été payé et c'est un prix inestimable. Jésus a payé le prix de ton salut. Toi qui es ici, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas quelqu'un qui dit peut-être plus tard. Parce que tu n'es pas maître de ton lendemain et plus tard peut être trop tard. Jésus a payé le prix. Le prix du pardon de tes péchés. Le prix pour que tu puisses entrer pleinement dans tous les bénéfices du salut. Vous qui êtes sauvés ici aujourd'hui, comprenez les bénéfices du salut et vivez à la hauteur de ce que Jésus a fait de vous. Vous êtes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes fort. Vous êtes puissant. Vous êtes victorieux face à toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les symptômes, toutes les maladies. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus errant. Mais vous avez un Dieu qui est votre Père et qui est votre ami. On va prier ensemble. Père, je te demande de révéler ces choses avec une grande puissance. Toutes personnes qui sont ici, que ce soit ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit ceux qui croient te connaître alors qu'ils ne te connaissent pas, et que ce soit aussi pour ceux qui te connaissent, afin qu'ils puissent aller plus loin avec toi et vivre une vie qui soit à la hauteur de ce que tu as accompli, Jésus. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ne tarde pas, parce qu'il est tard, il est déjà tard. Si ces paroles ont touché ton cœur, que ce soit ce que les enfants ont pu produire, ou que ce soit également ce message de ce matin, et que tu sais que vraiment tu es concerné La Bible dit que tous les hommes ont péché. Et un jour ou l'autre, nous avons tous été concernés. Mais certains ont fait cette démarche. Aujourd'hui, tu peux la faire. Si tu aimerais qu'on prie avec toi, pour que tu puisses recevoir Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ta destination soit changée, je te demande de lever la main et de dire, moi j'ai besoin qu'on prie avec moi. S'il y a quelqu'un ici, lève ta main bien haut, dis-moi, j'ai besoin de Jésus aujourd'hui. Je ne veux pas attendre demain. Ne soyez ni timide et n'ayez pas honte. Parce que Jésus a dit que celui qui avait honte de lui devant les hommes, lui aussi aurait honte de lui devant le Père. Donc si tu es concerné par cette parole, ce que je te demande maintenant, c'est de venir ici devant. Approche ici, on va prier avec toi. Et on va t'aider à recevoir Jésus. Je voudrais aussi les conseiller. Merci. Approche ici devant. On va prier avec toi et ta vie va être changée et ta direction, ta destination. Je sais qu'il y a du monde ici. Approchez. Approche. Viens ici, on va prier avec toi pour que tu puisses recevoir
Christ
comme ton sauveur personnel. Approche ici. Demande à ton voisin à côté de toi, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Demande-lui. S'il te dit oui, alors gloire à Dieu. Mais s'il te dit non ou s'il ne te dit rien, dis bien, on va ensemble aujourd'hui, c'est Pâques, c'est ton jour. Alléluia. Approchez. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Approchez sans crainte. Même ici au balcon, on vous attend. Prenez votre temps. Et venez ici. Que aujourd'hui, ça soit le changement de votre vie pour l'éternité, le pardon des péchés, la délivrance des fardeaux, la guérison de vos corps, la guérison de vos âmes également. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un ici qui a besoin qu'on prie avec lui, qui a besoin de Jésus dans sa vie? Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. On va faire cette prière. C'est si quelqu'un est ici.